Psycho. 30 minutes pour aborder des questions d'éducation et de psycho. Bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième édition de Parlons Psycho. Ce soir, nous allons parler du burn-out maternel. Un nombre de mamans connaissent ce syndrome d'épuisement physique et psychologique, pourtant encore tabou. Comment survient-il? Quelles sont les conséquences sur ces femmes et leur entourage? Comment y remédier? Nous allons décrypter ce phénomène qui commence enfin à être reconnu. J'ai avec moi ce soir Nathalie Montorfano.
Bonsoir. Bonsoir.
Nathalie, vous êtes psychothérapeute en thérapie cognitive et comportementale.
Oui.
Vous intervenez au Centre de traitement du stress et de l'anxiété, le CSTA, à Lyon et à Villefranche.
Tout à fait.
Et nous avons également avec nous, par téléphone, Marie-Christine, 47 ans. Bonsoir Marie-Christine.
Bonsoir.
Vous avez 3 enfants et vous avez, quant à vous, connu 2 burn-out il y a quelques années. Nathalie,
oui, tout à fait.
Voilà. Nathalie Montorfano, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous recevez des femmes souffrant d'un burn-out? Est-ce que ces patientes viennent en vous disant « je crois que j'ai fait un burn-out » ou bien est-ce qu'elles n'ont pas conscience encore de leur situation et elles vous sont envoyées à la demande du médecin traitant ou de leur conjoint?
Alors pour la plupart, il s'agit plutôt d'une indication médicale, essentiellement les médecins généralistes hein, avec qui on travaille en étroite collaboration. Ces femmes ne sont pas en général effectivement très éclairées sur les symptômes du burn-out. C'est pourquoi en général elles viennent adressées pour une dépression ou autre trouble qui n'ont souvent pas tout à fait le lien avec la véritable souffrance hein, dont elles disposent. Et c'est pourquoi très souvent nous faisons le lien au cabinet, hein, en première consultation. Ou alors c'est aussi des consultations via notre site internet qui permet aussi de repérer les symptômes et dans lesquels elles se reconnaissent plus tôt.
Et alors 73% des mères se disent aujourd'hui fatiguées, 66% stressées par cette course contre le temps. À partir de quel moment on considère qu'une mère est en plein burn-out?
Alors tout d'abord, il y a plusieurs phases hein, dans ce qu'on dit le burn-out. Le véritable syndrome hein, du burn-out, c'est au moment où la personne est épuisée physiquement et émotionnellement. À savoir qu'elle dit être vidée au bout du rouleau. Alors là, on est vraiment après un surinvestissement, un sacrifice de soi, beaucoup de frustration, une perte d'énergie, après des coups de mou. Et là, on arrive effectivement à un véritable épuisement. Alors d'abord qui se manifeste physiquement, ça c'est très important, puisque ça va se manifester par des somatisations, aussi bien des migraines, quelque chose de somatique. Et puis on va aller vers une irritabilité de la colère. Et là, la personne décrira une hyper-réactivité émotionnelle. Ça, c'est assez important de voir que l'entourage ne va plus tout à fait la reconnaître dans son comportement et ses réactions émotionnelles.
Le manque de sommeil aussi, j'imagine qu'après ça a un impact.
Alors, les troubles du sommeil, parce que ça va avoir toute une incidence tout à fait après sur les nuits avec des périodes d'insomnie, ce qui va motiver la consultation auprès du médecin généraliste.
D'accord. Et Marie-Christine, alors vous, vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez traversé 2 phases de burn-out, 2 passages à vide il y a quelques années. Dans quelles circonstances s'est traduit ce moment où vous avez senti que vous étiez en train de perdre pied? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, est devenu impossible à faire pour vous?
Alors, la première phase de burn-out, moi, je l'ai vécue en 2003, donc ça remonte un petit peu. Et qu'est-ce qui se passait? Bah, j'étais très très irritable, beaucoup de colère, beaucoup d'énervement, partir tout de suite dans les tours dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas comme ça voulait. Et mon conjoint m'a dit à un moment, mais il dit, écoute, ça va pas, tu deviens folle. Et donc à ce moment-là, eh bien, je suis allée consulter un psychiatre, hein, puisque pour voir avec lui qu'est-ce qui se passait.
Donc directement un psychiatre, en fait.
Directement un psychiatre, puisque mon mari me disait, ça va pas, t'es en train de devenir folle. Je me suis dit, bon, qui s'occupe des personnes qui ont une maladie mentale? Ce sont les psychiatres, donc je vais voir un psychiatre.
Et est-ce que par la suite, donc suite à cette première séance chez le psychiatre, vous avez eu du mal à demander de l'aide autour de
vous ? Alors, j'ai pas eu de mal à demander de l'aide. Le psychiatre a été assez dérouté avec moi parce qu'en fait, je n'avais pas de pathologie. Et il me dit, vous êtes épuisé. Mais en 2003, le burn-out maternel n'était pas connu du tout.
Oui.
Donc, j'ai fait quelques séances avec lui et j'ai arrêté. J'ai essayé de trouver d'autres solutions. Le médecin m'avait prescrit des antidépresseurs et des somnifères. Je dis, je ne vais pas prendre des trucs comme ça. C'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un, évidemment, qui ait la capacité à m'accompagner, à comprendre ce qui se passait.
Donc, grosse fatigue pour vous, et vis-à-vis de vous-même, qu'est-ce que vous avez ressenti, et je dirais même aussi vis-à-vis de votre conjoint et de vos enfants, à ce moment-là?
Alors, qu'est-ce qu'on ressent? C'est beaucoup d'incompréhension, de dire, mais c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai l'impression que l'entourage ne me comprend pas, ce que j'explique, ce que j'exprime n'est pas entendu. J'étais très fatiguée, j'avais besoin de dormir, mon besoin de sommeil n'était pas respecté, même si je disais non, je vais faire une sieste, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de calme. Mon entourage me disait, mais comment ça se passe, c'est pas normal, pourquoi t'es fatiguée comme ça, il y a un problème, etc. Et évidemment, le médecin, j'ai un médecin qui m'a dit, il me dit, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de faire un break, de partir en vacances, mais alors en vacances, hôtel, tout compris, vous faites pas de cuisine, pas de ménage, rien du tout, quoi. Mais sinon, il n'y avait pas d'autre issue possible, enfin, il n'y avait pas de solution.
Et alors, quelques temps plus tard, là, il y a eu un diagnostic de posé, on a parlé réellement de burn-out maternel.
Pas du tout, puisque le terme n'était pas connu. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, en plus de cet épuisement, j'ai eu un très gros choc émotionnel à un moment. Et j'ai contacté une thérapeute avec laquelle j'ai travaillé pendant un an, qui m'a permis de reprendre pied, de me poser. Il n'y a jamais eu le terme de burn-out maternel qui a été dit à ce moment-là. Le terme de burn-out maternel, je l'ai connu en 2005, en fait, par la conférence de Violaine Guéritaud quand elle est venue à Paris présenter son livre « Le burn-out maternel, la fatigue physique et émotionnelle des mères ».
Là, à l'époque, vous ne travailliez pas, vous étiez essentiellement à la maison.
Donc là, j'étais en congé parental, tout à fait, et j'étais animatrice bénévole pour une association de soutien à l'allaitement maternel.
Et alors, les femmes d'aujourd'hui, Nathalie, font face à un cumul de responsabilités. Donc, dans le cas de Marie-Christine, c'était vraiment essentiellement à la maison. Aujourd'hui, les femmes font face donc à un cumul de responsabilités à la fois au travail, à la maison. À force de trop en faire, elles se retrouvent submergées finalement par l'anxiété et le stress, ce qui peut les faire basculer, on l'a vu. Mmh. Est-ce que c'est un phénomène de notre époque ? Est-ce que nos mères et nos grand-mères ont aussi pu faire un burn-out ?
Alors, c'est comme le témoignage le dit très bien, c'est assez récent qu'on peut parler de burn-out maternel, même si c'est à partir des années 80 que les premiers travaux ont commencé réellement. Mais effectivement, il n'y avait pas la même évolution des conditions féminines aussi par rapport à aujourd'hui, où la femme se surinvestit pleinement, aussi bien au travail qu'à la maison, et que du coup, elle va jouer des rôles multiples, qui va faire qu'elle va avoir un sentiment de perte d'efficacité et d'épanouissement maternel, lié aussi à toutes ces injonctions de perfectionnisme, d'idéaux, de la femme idéalisée, de toute la société de consommation qui nous amène aussi à développer de plus en plus cette idée qu'il faudrait être une très bonne mère, une très bonne épouse, une très bonne femme, une très bonne femme active. Et du coup, ça va effectivement amener l'épuisement physique et émotionnel qu'on retrouve aujourd'hui, que peut-être les femmes de l'époque de nos mères et de nos grand-mères ne connaissaient pas de la même manière. Il y a quand même une différence.
Donc aujourd'hui, c'est ça. Les mères doivent être disponibles et performantes dans leur rôle de maman.
Tout à fait. Il y a ce perfectionnisme qui est là un peu à tous les niveaux, que nous rencontrons énormément en clinique, au cabinet. Et que nous essayons aussi avec lequel nous travaillons pour baisser le niveau d'exigence en quelque sorte de toutes ces mamans qui sont épuisées.
Et alors parmi les conséquences les plus extrêmes du burn-out, on parle souvent d'une distanciation affective avec ses enfants, qui peut se traduire par de la négligence, de l'agressivité, voire de la violence. Marie-Christine, est-ce que pour vous, c'est allé jusque-là ?
Alors oui, j'étais très très agressive verbalement, je vais dire, hein, de crier, etc. Heureusement, quelques années avant de faire le burn-out, deux ans avant, j'avais découvert tout ce qui était parentalité bienveillante, communication non violente, et donc j'avais commencé déjà bien travailler de la chose, ce qui fait que j'avais tellement conscience que de m'énerver, que de crier après mes enfants, d'être agressive avec elles, c'était dangereux pour elles. Donc, ça a relativement tempéré ces choses-là. J'avais, ayant conscience de ça, je le faisais pas. Je faisais attention à mes filles. Ceci dit, oui, il y avait énormément de colère intérieure. Hein, même si elle n'était pas toujours, du coup, exprimée, verbalisée, ça bouillait énormément à l'intérieur.
Et je suppose que par la suite, vous avez parlé de cela avec vos enfants. Hein. Vous parliez de discipline positive, d'éducation bienveillante. Quel mot vous avez utilisé pour expliquer à vos filles ce qui s'était passé ?
Alors, bah, pour leur expliquer, c'est vrai que je leur expliquais surtout après. Enfin, je leur expliquais à chaque fois si je m'énervais, excuse-moi, je me suis énervée, c'est pas de ta faute, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Voilà, on faisait un câlin. Et puis voilà, on passait à la suite. Je faisais toujours attention de leur de les préserver, de leur dire non mais c'est pas de ta faute, tu es en train d'apprendre, tu es en train d'essayer, etc. Bon, et surtout de dire bah voilà, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, ou j'ai besoin d'aller prendre l'air. Voilà, au fur et à mesure, j'avais aussi un petit peu développé des techniques pour limiter l'impact sur elles.
On sent qu'il y avait pas mal de recul de votre part quand même pour pouvoir expliquer la chose, ce qui n'est pas forcément...
Bah oui, mais parce que j'avais bien travaillé le sujet, quoi.
Ouais. Vous avez eu la chance de, voilà, de pouvoir travailler le sujet, d'avoir un moment de clairvoyance, en fait, pour arranger la situation.
Oui, conscience de l'état dans lequel j'étais, qui n'était pas normal, où il y avait un problème, même si je ne savais pas quel était le problème et comment le résoudre, je savais que ce n'était pas normal d'être dans cet état-là.
Parce que ce n'est pas toujours le cas, Nathalie. Il y a certainement des patientes que vous avez pu recevoir qui disent s'être retrouvées désorientées au point de sortir au départ faire des courses et arriver dans le magasin sans porte-monnaie, sans argent, n'ayant plus conscience de ce pourquoi elles étaient venues dans ce magasin. Vous en rencontrez souvent des mamans pour qui cette situation arrive.
Alors je dirais c'est pas la facette du syndrome du burn-out que nous on rencontre le plus souvent, même si je dirais c'est plutôt des personnes qui sont au bout du rouleau, donc qui disent être en pleine crise, qui s'écroulent, qui pleurent. On est plutôt dans des symptômes dépressifs, on va dire, qui sont là l'ultime épuisement émotionnel, avec après avoir fait une grande crise de nerfs sur leur enfant, avoir claqué la porte, avoir hurlé en plein centre commercial et frappé leur enfant, avec toute la honte que ça génère derrière, voire avoir été arrêté par d'autres personnes. C'est, je dirais, plus là le motif de consultation, car heureusement, la dimension de la honte protège ces mamans qui sont très aimantes, hein, mais qui là n'en peuvent plus.
Ne se reconnaissent plus.
Tout à fait.
Et alors, comment aujourd'hui vous soignez une patiente victime d'un burn-out ? Comment vous travaillez ? Qu'est-ce que vous préconisez à la maison et avec les enfants ?
Alors, tout d'abord, donc, nous, au Société A7 Villefranche-sur-Saône, nous travaillons en thérapie cognitive et comportementale. Hein. C'est-à-dire que c'est des thérapies très fonctionnelles où on va analyser comment ça fonctionne ou comment ça dysfonctionne plutôt. Donc on va faire un cercle vicieux sur quelle est la situation qui pose problème, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez et quels sont les comportements qui sont induits par toutes ces pensées, ces émotions, qui va nous amener effectivement vers le cercle vicieux dans lequel la femme se trouve. Et on va l'aider à ce moment-là alors, soit à gérer ses émotions, davantage réguler les émotions, soit travailler sur les schémas cognitifs en fait qui sont pas tellement conscients et qui amènent par exemple le perfectionnisme ou l'épuisement. Donc là ça va énormément permettre d'aller tout de suite mieux, ou alors très rapidement amener des phases comportementales à domicile, c'est-à-dire comment, en cas de crise, par exemple, la maman, qu'est-ce que la maman peut faire, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place. Par exemple, on va dire aux enfants, dès que votre maman s'épuise ou crie, vous allez dire « oui, Titi, un petit mot », vous levez la main, et ça veut dire ben, « maman, là, t'es en train de nous crier dessus, et on a dit qu'on faisait plus ça avec la psychologue, etc. »
Des outils pour désamorcer.
Des outils de gestion, des outils comportementaux très concrets, avec des tableaux de jour, des carnets de bord, etc., où la maman va noter aussi tout ce qui se passe dans ses pensées, dans ses émotions, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Et c'est là où c'est assez intéressant pour elle, c'est de voir quels sont les comportements fonctionnels et les conséquences des comportements. Et elle va voir très vite que tout ce qu'elle adopte comme comportement ont des conséquences très négatives. Donc elle s'épuise encore plus, les enfants sont plus opposants, le mari est encore plus distant, la comprend encore moins. Et donc on va réguler tout ça ensemble et amener un cercle beaucoup plus vertueux hein, par toutes ces possibilités.
Et alors le burn-out, est-ce qu'on peut dire que c'est un mal qui engendre d'autres maux ?
Oui, alors c'est très joliment dit. Effectivement, on peut avoir, alors, comme je vous le disais, majoritairement, on a quand même des dépressions associées. Parce qu'effectivement, être dans un épuisement physique émotionnel, une distance affective parfois avec ses enfants, une perte d'efficacité, un épanouissement maternel qui n'est pas du tout là, vous pensez bien qu'au bout d'un moment, il y a une perte de confiance en soi, il y a beaucoup de difficultés de l'ordre dépressif qui vont s'installer. Donc ça, c'est la première chose. On va aussi avoir des troubles anxieux, parfois des problèmes de couple hein, qui sont là, ou alors, plus profondément, des troubles de personnalité. Hein, c'est-à-dire que vous avez des personnalités où là, on a des instabilités émotionnelles, des choses beaucoup plus ancrées hein, dans l'histoire du sujet, hein, qui va faire que ces gens-là sont plus fragiles émotionnellement et donc vont coter beaucoup plus dans la possibilité de faire un burn-out.
Donc là, le burn-out peut être aussi la conséquence d'un autre trouble qui
oui,
serait enfoui.
C'est ça.
Quelque chose de personnel, peut-être d'héréditaire aussi.
Alors, les études ne sont pas dans le sens de l'hérédité, on n'a pas de choses qui valident ça. Pour autant, on peut dire qu'effectivement, on a peut-être des facteurs de prédisposition au niveau de la personnalité, donc personnelle, des compétences émotionnelles qu'on n'a pas tous de la même manière, l'histoire de chacun, des facteurs liés aussi à l'enfance, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je vois beaucoup de mamans qui ont des enfants TDAH, donc des troubles de l'hyperactivité et de l'attention, et qui sont épuisées hein, dans leur rôle éducatif, parce qu'elles sont aussi dans l'impuissance, ces enfants pas forcément diagnostiqués, grosses difficultés de comportement, hein, donc ça va aussi amener
des
facteurs aggravants.
De toute façon,
tout à fait.
Sur l'entourage familial.
Tout à fait.
Marie-Christine, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nathalie ?
Alors, c'est sûr qu'il y a des facteurs aggravants. Après, il y a aussi quelque chose qui est très souvent oublié, c'est toute la partie physiologique. C'est-à-dire que moi, j'ai pu en prendre conscience bien après mes épisodes, c'est que j'étais porteuse d'une pathologie qui s'appelle la candidose digestive. Et la candidose digestive impacte évidemment sur l'état émotionnel et psychologique. Et ça, je n'ai pu en prendre conscience qu'il y a 5 ans, donc bien après mes burn-out, et en suivant le traitement pour réduire cette pathologie. Et bien évidemment, j'ai senti régulièrement les attaques du champignon, c'est un champignon qui provoque ça. Et évidemment, quand ce champignon reprenait un peu de la vitalité, tout d'un coup, je me sentais pas bien, j'avais envie, je me mettais à pleurer, je me disais quoi ce truc-là? Et là, la naturopathe qui m'avait expliqué, elle me dit, bah, si ça t'arrive, bon, tu prends telle chose, tel produit, ça va arrêter le champignon et la crise va passer. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très très peu connu et dont je parle très souvent parce que ça a un impact important sur l'état de burn-out.
Oui, ça fait de ces femmes des femmes plus vulnérables que la moyenne, déjà à partir de cette bactérie.
Bien sûr, oui, parce que l'état physiologique n'est pas optimum et du coup, cette pathologie entraîne des troubles du comportement, de l'émotion. On se retrouve tout d'un coup à avoir envie de pleurer alors qu'il n'y a rien qui
justifie.
Tout va bien et c'est juste la pathologie qui interfère. Quoi. Mmh.
Marie-Christine, on sent que vous avez pris beaucoup de recul. Hein, ce dernier burn-out date maintenant d'il y a 8 ans. Vous avez donc pas mal cheminé, on le sent. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'être une nouvelle mère, voire même une nouvelle femme? Qu'est-ce qui a changé chez vous?
Bien sûr, tout à fait. Je ne suis pas du tout la même que celle que j'étais quand j'ai eu mon premier ou mon deuxième burn-out. Ça c'est clair, puisque j'ai beaucoup travaillé sur moi. Bon, on partait avec des thérapeutes, en thérapie aussi, on travaille aussi beaucoup en développement personnel, puis beaucoup de travail de recherche personnelle, moi, pour comprendre ce qui se passait, comprendre comment ça fonctionnait un burn-out. Pour moi-même maintenant, depuis quelques années, j'ai développé un accompagnement en coaching pour accompagner pas à pas en parallèle de thérapie. Hein, je le dis bien parce qu'il y a aussi tout un travail thérapeutique dont les mamans ont besoin, parfois, plus ou moins, de façon plus ou moins intense, surtout quand l'état est avancé.
D'accord. Voilà,
quand c'est au tout début de l'épuisement, la maman n'a pas forcément besoin de thérapie particulière, mais quand l'état est très avancé, qu'elle se retrouve sur de la distanciation, voire même du reniement, j'ai eu des mamans qui disaient, mais non, et de toute façon, je suis pas une bonne maman, je suis jamais arrivée à ce stade-là, mais là, c'est clair qu'il n'y a absolument besoin d'un travail thérapeutique.
Nathalie, on entend aussi parler de burn-out paternel. C'est encore plus tabou, mais est-ce aussi courant ?
Alors c'est encore bien méconnu, les pères expriment toutes leurs difficultés sur le même registre que les mères, et peut-être que l'évolution du rôle des pères dans la société va effectivement faire qu'il y a de plus en plus de pères qui s'investissent auprès de leurs enfants au même titre que les mères. Je pense qu'on peut tout à fait... On peut tout à fait imaginer qu'une évolution du burn-out des pères, effectivement.
Bon, c'est un phénomène de société, du coup, ce burn-out.
Ben oui.
On peut clairement
oui.
le dire.
Ouais.
Donc les mamans victimes de burn-out ne sont pas seules, hein, on l'a dit, c'est un mal courant. Mais il existe des solutions pour se préserver, ainsi que son couple et ses enfants. Hein, si on devait faire la synthèse de notre émission, ce serait de s'aménager du temps pour soi et de savoir demander de l'aide.
Alors surtout, voilà, de pouvoir parler à une personne de confiance, que ce soit quelqu'un une amie dans le cercle proche dans un premier temps, et puis surtout un professionnel, peut-être le médecin généraliste, qui lui pourra orienter la personne peut-être vers un psychologue ou autre professionnel
faire
aussi.
D'autres thérapies.
En fonction d'autres thérapies, tout à fait. On peut imaginer de la médecine traditionnelle chinoise qui pourra aider physiquement et émotionnellement la mère, sans pour autant qu'elle ait à faire tout de suite une thérapie. Et puis peut-être, si ce n'était pas nécessaire, suffisant de pouvoir continuer.
Marie-Christine, vous avez beaucoup lu, vous avez fait beaucoup de rencontres. C'est ça qui vous a aidé aussi, principalement, hein, c'est ce qu'on a compris.
Alors, ce qui m'a aidé, c'est déjà le livre de Violaine Guérito, hein, clairement, puisque là, après mon premier burn-out, j'en étais sortie. Hein, mais je dis, ok, d'accord, c'est ça, ça porte un nom.
Peut-être qu'on peut donner le titre de ce livre de Violaine Guérito.
La fatigue physique et émotionnelle des mères, le burn-out maternel.
D'accord. Vous connaissiez
Nathalie? Oui, tout à fait, hein, qui est une référence.
Oui.
Tout à fait.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça a été déjà une révélation. Et puis après, évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur mon histoire personnelle, savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, quelle chose j'avais faite régulièrement et qui avait entraîné cet état-là. Et bien sûr, ça a été aussi travaillé en thérapie. Ce sont ces bases-là, en fait, qui servent après en appui pour dire, ok, ça mène à l'épuisement, donc qu'est-ce que je vais faire qui va me mener à un état de vitalité ou qui va faire que je vais améliorer ma communication, que je vais améliorer mon état d'être et que je ne vais plus retomber en burn-out.
Un mot à ajouter, Nathalie, pour terminer?
Je dirais... À toutes les mères concernées ou les personnes qui reconnaissent un peu les symptômes du burn-out, de ne pas hésiter à demander à un professionnel de l'aide, voire d'en parler à la personne concernée directement.
Pas forcément dans son propre entourage,
oui,
mais plus à l'extérieur.
Tout à fait. De sortir justement de peut-être de la honte aussi générée par des comportements parfois très... inappropriée et de ne pas hésiter, au contraire, de s'ouvrir à d'autres personnes, car plus on en parle, plus on s'aperçoit que c'est à peu près toutes les mamans sont concernées. Toutes ne vont pas dans un burn-out,
mais sont pas
tout le monde se reconnaît dans ce phénomène, tout à fait.
Eh bien, écoutez, cette émission se termine. Un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous.
Merci Marie-Christine de vous être confiée à nous et de nous avoir fait partager votre vécu. Et merci Nathalie pour toutes vos explications et vos conseils. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Psycho. Très bonne soirée à tous. Galère.